Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le Weekly News, votre émission d'actu comics. Comme d'habitude, nous allons vous présenter les dernières infos concernant le ciné, la télé, mais aussi les comics en eux-mêmes évidemment. Et pour m'accompagner dans cette petite émission hebdo, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Je dis petite émission parce que l'actu est au ralenti, nous ne sommes que deux, nous avons fait une petite émission, on va dire à la cool, préparée il y a 5 minutes.
Ouais, coolos. Il y a pas beaucoup d'actu, donc voilà.
On va démarrer tout de suite avec le What's Up, nos dernières geekeries du moment. Bah, Bruno, justement,
alors,
qu'as-tu, What's Up ?
Ouais, plusieurs petites choses. Alors, côté ciné, on est allé voir avec Nightrunner Frozen, donc la Reine des Neiges, le nouveau film de Walt Disney, qui était, ma foi, fort sympathique, qu'on a vu en 3D. Donc, par contre, je déconseille la 3D, parce que ça... C'est un film qui se passe dans des terres enneigées et en fait on a le film du coup les teintes sont hyper gâchées par la 3D. Donc normalement ça doit être blanc et éclatant et avec les lunettes 3D, c'est vrai que ça rend pas terrible. Sinon une très bonne histoire, enfin c'est un film en images de synthèse, c'est pas d'animation traditionnelle.
Ah d'accord, ouais, c'est du film. Okay.
C'est du film voilà, un petit peu comme Rebelle ou comme Réponse. Ça reprend un petit peu la recette aussi des Disney classiques,
c'est-à-dire Rebelle et Réponse c'est de... Alors attends, je dois pas voir la même chose que toi en fait dans ce que tu dis. C'est du dessin animé
ou pas ? En fait, si c'est Rebelle et Réponse, c'est de la 3D en image de synthèse déjà. Mais c'est vrai que ça ressemble un peu à du dessin animé de loin,
ah,
mais
oui,
c'est
oui,
pas
oui,
comme
oui. Enfin, ça
par
reste
exemple
de
Aladdin ou Les Belles et la Bête. Voilà.
Oui, ça reste de l'animation. Mais non, parce que quand t'as dit c'était un film, moi je pensais que c'était un film avec des acteurs live quoi.
Non, ça reste c'est de l'animation 3D en fait, contrairement aux classiques comme Aladdin ou le Roi Lion par exemple, voilà, qui ont marqué notre enfance. Mais ça reste vraiment techniquement très impressionnant, que ce soit les expressions des personnages, le mouvement, voilà. Même si moi j'ai quand même tendance à préférer encore ce côté animation traditionnelle qu'on a sur les vieux films de Disney qui m'ont un petit peu plus marqué. Il y a quand même des scènes vraiment très jolies dans le film. Comme je disais, ça reprend la recette des classiques, à savoir qu'on a quand même beaucoup de scènes chantées. Bon, on l'a vu en VF, ça a un petit peu nié certaines chansons, on avait l'impression. On a revu certaines scènes en rentrant les équivalents en VO et on s'est dit que bon, ça rend un petit peu mieux quand même en version originale les chansons. Bon voilà, c'est pas toujours le cas parce qu'en général on va voir tous nos films en VO, mais pour les Disney, souvent on tente la VF. Je sais qu'on est quand même pas mal marqué par notre enfance et par la plupart des Walt Disney, les chansons en français qui étaient vraiment très bien et qu'on refredonne encore même, genre les chansons du Roi Lion ou d'Aladin ou ces choses-là. Mais là,
ah,
c'est pas
moi,
des
chansons.
Tu ne chantes pas les chansons du Roi Lion, Steve ?
Ah non, vraiment pas, non.
Et Hakuna Matata ?
Non plus.
Non plus ?
Ah non,
et c'est l'histoire de la vie.
Toutes les chansons de
Roi Lion. Le cycle éternel. Bon, je vais arrêter.
Non, enfin, je. C'est pas des trucs que je fredonne ou que je chantonne, tu vois, personnellement.
Voilà. C'est parce que moi j'avais une petite sœur qui avait 10 ans de moins que moi, et donc je lui chantais toutes les chansons de Walt Disney quand j'étais petit, donc je les connaissais par cœur.
Cependant, je les ai tous regardés de nombreuses fois, mais c'est pas des chansons que je fredonne ou quoi que ce soit. Enfin, bon, parce que musicalement, c'est pas du tout mon truc en plus, donc forcément.
Non, c'est vrai. Il n'y a pas eu trop de Disney metal pour l'instant.
Non, bizarrement.
C'est dommage, il y a un concept à... Je pense à creuser.
Pourtant, Taram et le Chaudron Magique, c'était quand même sacrément métal, quoi.
Ah, ils auraient pu faire du métal, mais c'était un peu trash. Hein. Mais il y avait pas trop de chansons dans Taram, je crois. Bon, en tout cas, un bon
Taram,
film
quoi.
Que je conseille de voir en 2D et si possible en VO. Donc voilà. Sinon, aussi, j'ai acheté Pacific Rim, donc j'ai pu le revoir en Blu-ray sur la télé. Et, c'est toujours un plaisir ce film. J'ai une petite pensée pour Sam qui doit en être à son 50e visionnage, je pense.
Juste pour le week-end, oui.
Oui, c'est ça, voilà. Ben, vraiment très bon film, un plaisir coupable, parce que bon, c'est pas le scénario de l'année, mais techniquement, et on s'en prend vraiment plein la tête, et j'adore ce film. Et vivement qu'il fasse une suite. Vivement qu'il fasse une suite, c'est dans les tuyaux, a priori. Donc voilà, un petit peu les geekeries du week-end.
Et donc, il y aura Mario dans la suite.
Pourquoi ?
Parce que c'est dans les tuyaux.
Ah
Mario,
oui, bah oui,
tuyaux.
Bah, tout à fait, tout à
Oh
fait.
putain,
D'ailleurs,
oui, je sais
à
qu'elle
quand
était.
un nouveau film Mario aussi? Parce que ça nous a beaucoup marqué dans notre jeunesse.
Par pitié.
C'est un des meilleurs rôles de Dennis Hopper, hein, de toute façon. Tout le monde s'en souviendra.
Ainsi que de Bob Hoskins, hein,
Ah
évidemment.
oui, magnifique.
Quelle merde ce film. Ah putain. Bah pour ma part, un week-end où j'ai pas fait grand-chose, que j'ai eu pas mal de monde qui sont passés à la maison tout au long du week-end. Le peu de temps que j'ai eu, je l'ai consacré à dormir et à mater, bien sûr, des séries comme d'habitude, à essayer de rattraper un peu le retard. Donc voilà, du Blacklist, du Person of Interest, voilà, week-end
Ouais, du
action, on va
lourd.
dire, en termes de
Ouais,
séries.
du lourd.
On va commencer comme chaque semaine avec notre partie Screen News et pour démarrer le trailer de The Amazing Spider-Man 2. On avait vu une espèce de
Tout
version russe pirate la semaine
à
dernière.
fait. Qui n'était pas exactement la même en plus. Donc
Non,
là,
non,
du coup, on
non.
a eu des scènes en plus avec cette version officielle.
Et surtout, on a eu de la HD
Ouais,
et
de la
non pas un espèce
HD.
de screener absolument ignoble que même sur les sites de streaming, ils n'en veulent pas. Donc non, bah ça pète de partout,
Ouais, beaucoup beaucoup
clairement.
d'action. Voilà, on voit pas mal de choses. On voit la présentation des différents méchants. On voit le design du nouveau Goblins. On voit le Rhino. On voit plein 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 de trucs. Electro dans des scènes. Enfin, je sais pas si t'as trouvé comme moi, mais ça fait très très jeu vidéo. Hein, toutes les scènes avec Electro, on a l'impression d'être dans un jeu plutôt que dans un film.
Bah, c'est assez moche, ouais.
Mais voilà. Plein de petits easter eggs, hein. J'étais même étonné qu'on en voit autant. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais il y a des indices même qui annoncent la présence peut-être future d'Octopus, du Vautour, à travers des costumes qu'on voit.
Non, je t'avouerai que je l'ai regardé quand même, on va dire, relativement passivement.
Ouais. Mais ouais, donc il y a vraiment peut-être trop de choses, hein, on va dire, parce que ça va. On sait qu'il y a déjà eu des soucis dans le Spider-Man 3, par exemple, de Raimi, qui avait introduit beaucoup trop de personnages vilains dans le même film, et c'était au détriment du scénar et tout. J'ai peur que ça qu'on retombe dans les mêmes travers, mais bon, on verra, hein.
Le problème, c'est que si le film est à l'image de la bande-annonce, quand est-ce qu'il y a des moments où on souffle?
Ouais, je sais pas, ouais, parce qu'il faut quand même développer un petit peu l'histoire. Il y a quand même deux trois petites choses que j'ai vues qui étaient intéressantes, à savoir, on revient sur l'histoire des parents de Peter. C'était quand même quelque chose qui était nouveau un petit peu dans le film, dans le premier film, et qui avait été laissé un petit peu de côté. Et là, ils vont revenir dessus, donc bon, pourquoi pas, ça sera peut-être intéressant. On apprend des choses aussi. Bah oui, voilà. Enfin, on a aussi vu une version commentée du trailer. C'est la première fois que je voyais ça. Où un trailer du coup de 8 minutes où ils mettaient en pause et t'avais les différents intervenants du film qui donnaient leur avis un petit peu sur les différentes scènes. C'est plutôt intéressant. On apprend des choses comme par exemple le fait que le personnage d'Emma Stone va partir, enfin doit faire ses études je crois à Oxford. Donc est-ce qu'elle sera là dans tout le film? Est-ce qu'elle revient d'Oxford? Est-ce que je sais pas. Mais voilà, on a pu voir aussi, t'as pu découvrir le super accent de l'acteur principal.
Oui, alors j'ai quand même sacrément impressionné parce que je ne savais pas qu'Andrew Garfield était anglais. Et du coup, chapeau bas pour lui de faire disparaître totalement cet
Ah,
accent.
c'est complètement masqué, hein, quand il est dans la peau de Peter Parker, c'est assez impressionnant.
Alors certes, c'est vrai que c'est une compétence que beaucoup d'acteurs ont aux États-Unis, mais là, il faut dire qu'il a un accent tellement à couper au
Les
couteau.
chanteurs aussi, quand pensons à Céline Dion,
Oui, mais enfin, la
hein.
chanson,
C'est
c'est
la
pas
première fois
exactement la
qu'on
même
parle de
chose.
Céline Dion dans un Comic City,
Ah, je sais pas.
je
Mais
crois.
c'est possible, ouais. C'est vrai que bon, l'accent disparaît quand tu chantes, mais quand tu. Enfin, c'est pas de la chanson, là, qui nous fait.
Ouais, non, c'est du de l'acting.
Mais non, là, j'étais impressionné par Andrew Garfield. C'est peut-être la première et la seule fois que je le dirai de ma vie, mais voilà, je
Donc voilà.
m'attendais pas du tout à ça.
Donc on attend maintenant de voir ce que ça va donner le film, mais en tout cas, il y aura probablement plus d'action que dans le premier, où c'était un petit peu pauvre à ce niveau-là.
Passons à l'autre franchise Marvel qui rapporte des sous mais qui n'appartient pas à Marvel et donc à la Fox, c'est la franchise X-Men avec déjà le titre du troisième X-Men officiel.
Ouais, alors ça c'est ouf, le film Day of the Future Past est même pas encore sorti que, bah déjà, c'est à travers un tweet que Bryan Singer annonce la suite, qui s'appellera donc X-Men Apocalypse. C'est pas ultra étonnant, mais voilà, pour un retour des X-Men en 2016.
Oui, le
Toujours,
27 mai 2016, déjà la
ouais,
date est
il y a
prévue.
déjà la date, Et on a
Ouais,
eu
enfin bon.
confirmation que ce sera encore Bryan Singer qui serait qui chapeautera ça. Donc
La date est sujette à changer, hein, comme souvent.
oui.
On te donne une date
Ouais.
tout de suite, mais finalement, ce ne sera
Quand
pas
c'est 2
forcément
ans à
celle-ci.
l'avance, ça peut changer. Ouais. Mais donc voilà, donc après Day of the Future Past, revenir sur un autre personnage assez classique, faire un arc aussi peut-être, parce que peut-être que ce sera une adaptation de l'ère d'Apocalypse, ou pourquoi pas.
Ouais, ça me paraît un peu trop ambitieux, mais
Quitte à... Ouais. Mais en même temps, c'est dans
étant
l'ère
donné que,
d'Apocalypse
enfin,
que le personnage a eu vraiment un intérêt et que depuis, on en a tiré
oh
toute une
non, il y a eu,
mythologie intéressante,
il y a
quoi.
eu
Enfin...
beaucoup d'histoires, il y a eu énormément d'histoires avec Apocalypse qui étaient très intéressantes avant l'ère d'Apocalypse.
Oui, aussi, bon.
Mais honnêtement, enfin, pour moi, ça me paraît très très ambitieux. Ou alors, il faudrait complètement le modifier parce que pour des profanes qui vont aller voir le film et qui en auront vu deux. Bon, allez, on va dire même 5, en comptant les 3 autres premiers X-Men, tu vas leur présenter des versions totalement modifiées des personnages, ou alors tu oublies les versions modifiées, et ça ne s'appelle plus l'ère d'Apocalypse finalement.
Ouais, et puis en plus t'as raison parce que le fait déjà que de voir Day of the Future Past où on aura droit à différentes versions des personnages à différentes époques, ça serait peut-être un peu redite d'avoir à nouveau un univers parallèle avec des versions alternatives. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose d'un petit peu plus simple avec justement voilà un pro-mutant qui veut exterminer l'humanité, un truc un peu plus badass que Magneto quoi.
Ouais, la survie du plus fort, le darwinisme à son plus pur constat, tout
Alors,
simplement.
ouais, moi, Apocalypse, moi, le truc qui me fait un peu peur, c'est ça va être vraiment le design hein, du personnage qui sera vraiment important, parce que quand on voit dans les comics, ça passe, mais un équivalent en film, va falloir qu'il fasse quelque chose d'assez cool, quoi, parce que c'est quand même un
Ouais.
gros balèze avec un masque blanc, une bouche bizarre, enfin.
Moi, personnellement, j'attends déjà de voir ce qu'ils vont donner pour Days of the Future Past avant
Oui,
de commencer à y
déjà.
réfléchir.
C'est
Parce
vrai.
que si ça se trouve, on sera peut-être vachement surpris en bien, ce qui a été le cas avec First Class, ou on sera peut-être hyper déçu. Et ça me pose problème, justement.
Ouais. Et puis en plus, le fait qu'il communique déjà peut-être sur une suite, on aura probablement une scène post-générique qui peut-être amènera sur le prochain film, donc avec peut-être déjà des indices sur la tournure de X-Men Apocalypse.
Moi, je vois bien quand même un truc en CGI façon Thanos, hein. C'est quand même le
Ouais, c'est
plus
possible.
simple.
C'est possible.
Continuons avec une autre franchise Marvel et qui cette fois appartient à Netflix maintenant, enfin en tout cas qui sera diffusée sur Netflix puisqu'il s'agit de Daredevil. Daredevil qui a enfin son showrunner d'annoncer officiellement.
Voilà, c'était plutôt officieux, mais là maintenant on a la confirmation, c'est bel et bien Drew Goddard qui va être le showrunner, qui va même écrire et diriger le pilote. Drew Goddard qui est quand même un proche
Joss Whedon, oui.
de Joss Whedon, voilà, il avait réalisé La Cabane dans les bois. Donc bon, bah c'est plutôt cool pour lui, parce qu'il va avoir une franchise intéressante à gérer, donc on verra ce que ça donne.
Rappelons que la série arrivera en 2015, hein, sur Netflix, ainsi que 3 autres. Nous avons notamment Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, et ces 4 séries-là formeront un ensemble qui se terminera dans Defenders. Voilà.
Voilà, ouais. Donc 2015, l'année où il y aura 75 séries tirées de comics.
Oui. Oh que oui. Il y en a peut-être un peu trop d'annoncés et on n'arrivera pas à suivre. Et d'ailleurs, sur ces nombreuses séries annoncées, combien se feront réellement? Ça reste la grande question.
Ouais, c'est
On
clair.
reviendra sur les annonces de séries à la fin de cette partie Screen News. On a encore eu une annonce de série totalement folle, voire
Ouais,
absurde.
tout à fait.
On passe maintenant à DC, le casting pour Wonder Woman. Il y avait des rumeurs qui couraient déjà depuis quelques semaines. Ça y est, c'est un casting officialisé. On en avait déjà parlé dans un Comics Weekly, hein, cette semaine, je crois, ou c'est avant l'émission. J'ai un doute maintenant. Bref, c'est Gal Gadot.
Voilà, Gal Gadot qu'on
Ou
connaît
Gadot, oui, je n'ai
ouais ou
aucune idée de comment
Gadot,
on
je
le
sais pas,
prononce.
voilà
J'en sais rien.
qu'on connaît pour quelques apparitions dans des films comme Fast and Furious 5 et 6. Voilà, où elle jouait la copine du pilote japonais. Je sais pas, voilà, si vous voyez pas qui c'est. Donc une nana plutôt jolie d'origine israélienne qui je crois a des a été formée aux arts du combat. Justement de par son je crois qu'elle a servi pendant 2 ans dans les forces de défense israélienne, donc elle devrait pouvoir gérer la partie action, même
Bah,
si
Krav Maga, quoi,
ouais
franchement,
voilà c'est
voilà,
ça
c'est l'armée israélienne, c'est le Krav Maga.
Même si, bon, quand on la voit dans Fast and Furious, elle est un petit peu queuse, quoi. Elle est pas très, très, elle est très, très maigre.
Justement, faut se méfier. Rappelle-toi Bruce Lee.
C'est
il
ça.
Était tout maigre. Il mettait une branlée tout de suite.
Mais bon, par rapport à l'image qu'on a de Wonder Woman, c'est vrai qu'on l'imagine pas spécialement toute maigre. Mais bon, après, c'est la magie du cinéma. On connaît des acteurs qui perdent 70 kilos en 3 mois, d'autres qui gagnent 80 centimètres de tour de biceps en 2 mois. Donc,
Bah, rappelons Chris Evans hein, pour Captain America qui a dû subir un énorme entraînement et on a vu la brute que c'est maintenant
ouais,
Captain America.
c'est clair.
Même s'il y avait un peu de
C'est
CGI
clair. Et
de
puis,
gonflette, mais.
y a des images aussi qui tournent en ce moment, pas mal de Ben Affleck qui est en train de se préparer au rôle de Batman. Le mec, il est sous stéroïdes, là. C'est pas possible.
Ah, je pense qu'elle aussi, elle va se préparer physiquement pour ce rôle.
Ouais. Après.
Quoique. Est-ce que ça fera pas juste une apparition, c'est
On
tout.
ne sait pas quelle sera l'ampleur de son rôle. C'est pas une actrice, on va dire, de premier plan, hein, qui a joué dans énormément de films, mais c'est une actrice en devenir qui est, moi, je trouve assez jolie, qui pourrait faire une bonne Wonder Woman. Donc, bon, après, faut voir. Faut voir.
Là, j'ai peur du même syndrome, hein, le syndrome Spider-Man 3. Ah, trop en faire, on va surtout rien faire. C'est ce qui me fait franchement très peur pour ce Man of Steel 2, mais.
Bah ouais, sachant que le Batman, il sera introduit dans ce film, la Wonder Woman aussi. On nous annonce plein de caméos divers et variés qui sont pas encore vraiment confirmés, mais on nous annonce du caméo de Flash, que
C'est bien le problème, ouais.
y a des rumeurs sur deux ou trois méchants. Enfin, c'est bon, ça va être un gros coup de loubi-boulga, j'ai l'impression, ce film, mais bon, on verra.
Restons justement chez DC, repartons sur le monde de la série avec la série Gotham, cette espèce de grande annonce qui nous avait fait tous vibrer en se disant « Oh mon Dieu, Gotham Central arrive !» Bon, ce ne sera pas exactement Gotham Central, mais ça risque de s'en approcher. Et on apprend surtout que Bruce Wayne aurait un rôle récurrent dans cette série. Mais Bruce
Ouais,
Wayne.
Bruce Wayne, oui, tout à fait, puisque donc cette série de la Fox qui va s'intéresser à la police de Gotham sera centrée sur le personnage de Gordon, mais jeune, et ça va se passer après l'assassinat des parents de Bruce Wayne, et il y aura en fil conducteur justement l'enquête autour de cet assassinat.
Et
Donc,
spoil, ils arriveront jamais à trouver l'assassin. Ça, c'est clair.
ah, le spoil de fou, quoi.
Le spoil de 75 ans,
Ouais,
putain.
c'est clair. Et donc voilà, donc ils sont en train de chercher de faire un casting pour trouver un acteur qui jouera le Bruce Wayne de 10 ans. Donc voilà.
On rappelle que la série est développée par
Je sais
Bruno
pas trop quoi
Heller,
en
le créateur
penser.
de The Mentalist. Rome,
Ouais.
aussi, enfin, qui est co-créateur de Rome. Et que Gotham fait partie des shows d'essai qui risquent d'être adaptés, enfin qui sont en tout cas en développement, avec Hourman,
Ouais.
iZombie et Flash.
Voilà, ça fait quand
Ainsi que
même pas mal.
Constantine
Et
pour la
Constantine, oui.
NBC.
Tout à fait.
Ça fait beaucoup, hein.
Ça fait beaucoup. Et voilà. Après, moi, je me doutais qu'ils allaient mettre Bruce Wayne dans cette série parce que ça va attirer du monde d'avoir un jeune Batman. Après, bon, j'espère qu'il aura pas trop non plus un rôle hyper récurrent parce que si c'est pour avoir un gamin de 10 ans qui sera en fil rouge, ça risque d'être un peu chiant. J'aime pas trop les gamins dans les séries télé.
J'aime pas trop les gamins.
Tout court.
Normalement, le pilote est prévu pour être tourné en mars, donc c'est quand même relativement proche, sachant qu'il n'y a eu aucune annonce de casting officiel, en tout cas pour le moment. Et la série devrait démarrer en septembre sur la Fox.
Ouais. Ah, je sais
On
pas,
va.
ouais.
Pardon, excuse-moi, je pensais que t'allais. J'ai
Non,
cru que
j'étais
t'allais
en train de
repartir.
réfléchir à quel acteur pourrait jouer le rôle de James Gordon, mais je vois personne vraiment qui me vient à l'esprit.
Oh, Vin Diesel?
Ce serait parfait. Ce serait tout à fait ça.
Je trouve qu'il a une tête de Gordon, moi. Allez,
Ouais, tout
passons
à fait.
à une franchise geek, s'il en est, une franchise que j'adorais. Et oui, il s'agit de la franchise
Alors,
Star Trek.
pourquoi au passé?
Parce que la franchise est morte, monsieur. On apprend que pour le Star Trek 3, Alex Kurtzman ne travaillera pas avec Bob Orci sur le script. Putain, il y aura peut-être moins d'incohérences. C'est pas mal quand même. Peut-être que la franchise va revivre.
Ouais, peut-être.
Du coup, à la place, on aura JD Payne et Patrick McKay qui vont rejoindre le cast de scénaristes qui avaient déjà travaillé pour une franchise Bad Robot. C'était Boilerplate, que je n'ai pas vu, donc je ne sais pas ce que c'est.
que je connais pas. Je ne connais pas non plus. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore sorti, non? Peut-être.
Ouais, apparemment, c'est un robot drama steampunk.
Voilà, et donc ce sera sans doute. Je crois qu'il y a aussi Damon Lindelof qui ne fera pas partie du film en tant que
Producteur, ouais.
scénariste ou producteur. Ouais, donc. Bon, on verra. Je crois que ça leur a fait quand même un gros coup de perdre J.J. Abrams pour la franchise de Star Wars.
Oh putain, va pourrir la franchise d'en face, je t'en prie, quoi. Vas-y, vas-y, et
Mais voilà,
fous
mais
la
ils ont
paix à Star
prévu un
Trek,
nouveau
s'il te
Star
plaît.
Trek peut-être pour 2016. Ce
Bah
sera
oui, puisque ce serait
l'année des 50 ans, c'est ça.
les 50 ans de Star Trek, donc pourquoi pas un film en 2016 où on décide d'annuler les deux derniers et donc la destruction de Vulcain et effacer 40 ans de continuité. Je sais pas, peut-être. On peut toujours rêver. On peut toujours rêver.
Tu devrais leur envoyer des idées de scénario, Steve.
Bon, et des idées de scénario, il y en a déjà assez avec les dizaines et des dizaines de romans qui sont sortis, qui sont tous très bons et qui pourraient faire de très très bonnes adaptations. Enfin, non, ils sont pas tous très bons, c'est faux. Il y en a certains qui sont très mauvais, mais il y a de très 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 bons romans et ils auraient largement de quoi piocher pour adapter de très bonnes histoires à l'écran. Faut juste bah, être lettré un minimum et savoir lire, quoi. Des fois, je me demande s'ils savent vraiment, au vu de ce qu'ils pondent et des incohérences qu'ils font. Mais bon.
Moi, j'ai bien aimé Star Trek 1 et Star Trek 2 de J.J. Abrams, et je te dis merde. Voilà.
Moi, je te dis que ce sont des bons films qui ne devraient pas s'appeler Star Trek. C'est tout. Mais ce sont des très bons films.
Tabata.
Je resterai sur cette idée. Ce sont des très bons films. J'ai beaucoup aimé Into Darkness. J'ai détesté Star Trek Into Darkness. La petite nuance. Continuons avec une autre franchise toujours autant geek, c'est la franchise Indiana Jones. Franchise qui, tout comme Star Trek, a des derniers épisodes qu'il faut oublier apparemment. Comme quoi, tu vois, ça doit être les franchises quand on les
Ah, ce
modernise, il
fameux
faut pas.
épisode
Il faut pas.
4. Voilà. Les crânes de cristal. Voilà. C'est
Je sais
magnifique.
pas, est-ce que c'est nous qui sommes des vieux cons ou est-ce que c'est franchement eux qui font de la merde? Je penche pour la deuxième solution.
Donc voilà. Donc on a Disney qui a acquis, enfin, on savait qu'ils avaient déjà acquis les licences de Lucas, dont
En fait,
Indiana Jones.
ils avaient déjà la possibilité de produire.
Des films.
Ils avaient les droits de production des films, en fait. Mais ils n'avaient pas les droits de distribution ni de marketing. Voilà.
Voilà, et là ils achètent tout, donc ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent avec la franchise.
Ils ont racheté ça à Paramount, hein, qui a détenu les droits.
Donc on aura probablement un retour enfin, de la licence Indiana Jones dans les années à venir, parce que ça c'est quand même encore un marché assez lucratif. Est-ce que Harrison Ford sera de la partie? Ça c'est pas sûr, parce qu'il commence à
Bien
être un
sûr que
petit peu
oui.
vieux.
Mais non, bien sûr que oui, il sera de la partie. Le mec, il va cachetonner. Le mec va aller cachetonner dans Star Wars 7. Le mec cachetonne dans Expendables 3. Forcément qu'il va cachetonner dans Indiana
Mais
Jones.
que penses-tu de, enfin, dans le, tu sais qu'on voit énormément de remakes actuellement. Est-ce que tu crois que Disney pourrait se permettre de faire carrément un reboot d'Indiana Jones avec de nouveaux acteurs? Parce que voilà, peut-être s'affranchir justement des quatre premiers films, surtout le dernier qui a pas été apprécié. Moi, je sais pas. Je pense que ce serait peut-être mieux pour eux de carrément recréer un nouvel Indiana Jones. Je sais que ça fait un peu polémique, mais
Oui, enfin,
je pense que
ce serait
ça pourrait
mieux.
être une bonne chose.
Je sais pas si ce serait mieux que ce soit possible. Oui, puisqu'on voit déjà la façon dont ils traitent Star Wars 7, puisqu'on sait très bien qu'il y a un 7, 8, 9 qui sont officialisés hein, dans la continuité, et qu'ils ont dit fuck it, nous on va faire autre chose. Donc,
Et
je
puis
pense que ce serait tout à fait possible de la part de Disney de partir dans une autre voie.
Star Wars, ce qui est quand même plus simple, c'est que ça se passe bien après. Alors peut-être qu'on aura des caméos des acteurs d'origine, mais il y aura quand même tout un nouveau cast qui sera majoritairement important. Là, le problème d'Indiana Jones, c'est que c'est vraiment une personne, quoi. Et c'était Harrison Ford jusqu'à maintenant. Et bah voilà, Indiana Jones,
Non,
si
je
c'est
suis pas
pour nous
d'accord.
remettre
C'était pas
encore
Harrison Ford
son
jusqu'à
fils.
maintenant. C'était pas Harrison Ford jusqu'à maintenant. Je te rappelle qu'on avait eu cette magnifique série emblématique des
Ah
années
oui.
90, Les Aventures du jeune Indiana Jones.
Ah oui, il y a eu quelques acteurs qui ont repris le rôle, c'est vrai.
Eh oui.
Mais non, non, pour moi, c'était Harrison Ford.
Et peut-être même qu'à la sortie d'un nouvel Indiana Jones, ils nous ressortiront une série, Les Aventures du jeune Indiana Jones, chapeautée par Disney, telle la franchise dont on va parler juste après.
Oh oui,
Tu
allez,
vois?
vas-y, vas-y, fais-nous mal avec cette nouvelle annonce.
Je termine juste sur Indiana Jones en précisant quand même que Paramount ne perd pas tout dans l'histoire puisqu'ils auront quand même une partie des profits. C'est le deal qui a été signé avec Disney. Donc après tout, les mecs, ils sont gagnants, quoi.
Ouais,
On leur
bah
cède
oui,
les
tant
droits
mieux,
et
hein.
en plus, ils se ramassent un petit pactole, donc c'est cool. Justement, cette autre franchise dont on parlait, c'est Terminator. On sait qu'il y a un reboot en préparation, mon
Tatan,
Dieu.
tatan,
Pourquoi faire un
tatan,
reboot de cette
tatan.
franchise? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, une franchise qui n'a pas besoin d'être rebootée, puisque de toute façon, avec le simple fait de revenir dans le passé, on peut faire n'importe quelle histoire.
Tout à fait.
Mais bon, on reboot. Alors certes, c'est Alan Taylor.
Ouais, donc le réalisateur de Thor 2 et entre autres réalisateur de pas mal d'épisodes de Game of Thrones.
Beaucoup d'épisodes de Game of Thrones, qui certes est pas mauvais, hein, loin de là. Mais c'est pas parce qu'il s'appelle Alan Taylor que je lui fais confiance, surtout pour un reboot de Terminator. Et ce que nous avons appris, donc le film est prévu pour 2015, apparemment, il serait temps pour parler de sortir le film au mois de juillet et au mois de décembre arriver une nouvelle série Terminator pour le petit écran.
Ouais, qui serait dans la continuité du coup de ce reboot. Alors on sait que la précédente série Terminator a été un petit peu pourrie quand même. Enfin, je sais pas,
Chronicles, moi j'ai jamais suivi, donc je
moi j'avais vu la
pas.
Première saison, j'avais trouvé ça vraiment très moyen.
Ouais, j'avais vu la gueule du John Connor, j'ai fait c'est pas possible. Ouais, bah, pour moi, il avait pas une tête de John Connor quoi.
On a l'impression que c'est surtout en fait maintenant quand on veut faire un film, il faut qu'on ait une idée de série télé pour accompagner, pour que ce soit rentable. Enfin, à chaque fois ils ont ça à la bouche.
Tu vois, c'est pourquoi, là, pour Star Trek, ça aurait été jouable. Tu rebootes le truc et tu lances une nouvelle série télé dans la foulée.
Mais Star Trek,
c'était justifiable.
Ouais, puis il y a cette histoire quand même. À la base, c'est une série, quoi. Et c'est vrai que ça aurait été cool. J'aurais bien aimé qu'ils annoncent ce genre de choses, quoi.
Ouais, et la pilule de la nouvelle continuité serait passée plus facilement, je pense. Honnêtement. Puisque t'as au moins une série, tu t'habitues à ce nouvel univers, tu le découvres et tu as pas un bout de nouvel univers tous les 3 ans, quoi.
Voilà, bon, Terminator. Donc 2015 d'ailleurs en fait pour le film. Donc encore un gros film d'action pour 2015. Ça va être la folie.
Ouais, on n'arrête pas d'annoncer des séries télé. Je suis même pas sûr qu'il y en a la moitié qui arrivera vraiment sur le petit écran. Et sur cette moitié qui arrivera, je suis même pas sûr qu'on en ait déjà le quart qui soit regardable. Donc ça laisse pas grand chose au final.
Voilà, ou alors tout sera super bien et on saura plus quoi faire de nos vies parce qu'on passera notre temps à regarder des séries et à regarder des films. Voilà.
Ah bah écoute, si tout est super bien, on va pas se plaindre, bien au contraire.
Non, on va pas se plaindre.
Mais... bien au contraire, mais malheureusement, on sait très bien comment ça marche. Il y a très peu de chances que ce soit vraiment
le cas.
On va passer à notre partie jeux vidéo maintenant pour conclure notre partie Screen News. Alors, un truc qui m'a fait rigoler beaucoup. Bon, j'imagine que tu n'as pas regardé le trailer, Bruno.
Non, je n'ai pas regardé.
Puisqu'il s'agit de Lego Movie, mais donc The Lego Movie est quand même adapté en grande partie des jeux vidéo Lego, notamment dû au design, etc. Et donc The Movie, hein, qui sort, rappelons-le, en février 2014, Lego The Movie, eh bien on va avoir un The Lego Movie Video Game.
Ah, mais
c'est
ça,
pas le serpent qui se mord la queue.
C'était obligé.
C'est-à-dire que le jeu vidéo finalement est dérivé dans un film qui est redérivé en jeu vidéo. Sérieux.
Et ça va reprendre la même recette que les précédents jeux, alors sans doute.
J'ai l'impression que ça va suivre un petit peu l'histoire du film quand même, puisque dans la bande-annonce, en tout cas du jeu vidéo, on revoit passer Batman, etc. On voit des petites séquences de gameplay. J'ai l'impression que c'est plus proche d'un jeu d'action, adaptation de film, que d'un jeu Lego basique. Mais ça reste qu'une impression sur ce trailer d'une minute 20 où on a quand même pas mal de cinématiques.
Ouais.
Donc on va avoir encore la possibilité de rejouer Batman dans un jeu vidéo Lego. Enfin, j'espère. Autre news jeu vidéo, c'est le studio Telltale qui fait encore parler de lui.
Ouais, tout à fait. C'était pendant les VGX, donc la fameuse soirée qui a récompensé des jeux aux États-Unis, c'est la semaine dernière.
Et que les jeux porno, bien évidemment.
Ouais, c'est ça, parce que c'est XXX. Donc voilà, ils ont annoncé que Telltale, donc la boîte de prod de jeux qui est connue pour justement le jeu Walking Dead ou le jeu Fable.
Mais
Wolf
pas que.
Among Us, et pas que, hein. Beaucoup de jeux de point and click qui sont vraiment très très bons. Et bien du coup, ils vont se pencher sur la franchise Game of Thrones. Dans la continuité plutôt de la série télé et pas des romans, même si les deux sont quand même très très proches. Donc on aura peut-être la même formule qui a été appliquée à Walking Dead pour Game of Thrones, ce qui est une bonne idée. Enfin, ça peut être intéressant d'avoir des choses inédites sur ce mode-là. Ils ont également annoncé qu'ils allaient bosser, là c'est pas trop série ou comics, mais sur un jeu dans l'univers de Borderlands, pareil avec la même formule. Donc c'est vraiment un studio qui a le vent en poupe en ce moment.
C'est un studio qui surtout prend énormément de licences.
Ouais, tout à fait.
Puisque en regardant la liste de ce qu'ils ont produit, On retrouve Bone, notamment. Ouais, c'était un de leurs premiers
jeux,
ils avaient fait un jeu
premiers,
sur Bone, en comics, hein, c'est sûr, mais après, en grossissant, ils avaient les licences CSI, donc les experts en français, hein. Ils avaient récupéré la licence Sam et Max, ils ont la licence Retour vers le futur, la licence Jurassic Park, Monkey Park. Island, enfin voilà, ils ont quand même des grosses licences, sans parler bien sûr de Fables et Walking Dead.
Voilà, puis ils ont conçu un moteur de jeu qui peut s'adapter à pas mal de choses et qui est plutôt bien réussi. Et ils sont très contents de leur système épisodique qui marche bien. Donc c'est quelque chose qui sera probablement également le cas pour Game of Thrones et Borderlands. Donc on verra. En tout cas, le jeu Game of Thrones, moi ça m'intéresse de voir ce qu'ils vont en faire.
Mais c'est ce qui est très sympa dans la version épisodique. Certes, alors le problème c'est qu'il faut attendre entre chaque épisode pour le joueur qui l'a acheté Day One. Mais tu peux justement tester, voir si ça t'intéresse ou pas à faible coût.
Tout à fait.
Donc si tu vois que ça t'intéresse pas, bah, tu auras engagé à peine 5 euros. Tu peux pré-acheter la saison. Ça leur permet aussi de faire des promotions sur l'ensemble de la saison une fois qu'elle est sortie, mais aussi avant que les autres épisodes sortent, de faire des petites promotions sur les premiers chapitres.
C'est le
et
cas,
donc
ouais.
Attirer d'autres joueurs qui n'auraient pas testé le truc.
Personnellement, pour Fable, par exemple, pendant le Black Friday sur Steam, ils avaient fait carrément moins 33% sur la saison complète alors qu'il n'y avait qu'un épisode sorti. Ça fait vraiment presque un épisode offert du coup, et voilà, ils se permettent de faire des promos très rapidement.
Et puis combien de joueurs ont acheté le premier épisode, on dit putain c'est génial, et finalement achètent la saison
Bah oui, carrément.
En pack, et du coup payent deux fois le premier, si tu veux.
En non, mais c'est,
comme ça, j'aurais
c'est
pas
une bonne
besoin
formule
d'aller acheter à chaque fois.
Et c'est de bons jeux en général. En tout cas, au moins les deux derniers sont vraiment très très bons. Donc,
Ouais, voilà, encore un univers bien geek qui va faire vendre un maximum de jeux, je pense. Une très bonne chose pour Telltale. On va terminer notre partie jeux vidéo avec une petite promo que tu as découvert tout à l'heure, Bruno.
Ouais, petite news, hein, c'est sur Steam, là j'étais en train de me balader, j'ai vu qu'il y avait un nouveau jeu free-to-play qui était disponible et qui concerne l'univers un petit peu comics, puisque c'est Marvel Puzzle Quest, Dark Reign, qui est un Puzzle Quest avec un skin Marvel plutôt sympathique, on va dire. Voilà, c'est gratuit, on voit des super-héros, si vous aimez faire s'assembler des petits joyaux entre eux.
Oui, voilà, on va expliquer le principe de Puzzle Quest, c'est un match 3, donc c'est-à-dire un peu comme Beach World ou autre type de jeu, c'est-à-dire on fait une ligne de 3 gemmes de couleur, de la même couleur bien sûr, et hop, elles disparaissent. Là, le côté Puzzle Quest, voilà, c'est qu'il y a un petit côté RPG, où à chaque fois qu'on combine des gemmes
niveau,
de chaque couleur,
c'est ça.
On gagne du mana, en quelque sorte, qui permet de lancer des pouvoirs, et le but, c'est de détruire son adversaire.
Voilà.
Donc, il y a une petite constante RPG, on monte aussi en niveau, on acquiert de nouveaux pouvoirs, etc. Une formule qui avait plutôt bien marché, hein, pour le premier Puzzle Quest qui s'appelait Warlords. Enfin, non,
oui,
c'est,
avec un skin, justement, de jeu de rôle, quoi, avec des magiciens, des chevaliers.
Très fantasy. Ils avaient sorti ensuite Puzzle Quest Galactrix qui avait nettement moins bien fonctionné puisqu'ils avaient changé pas mal la donne, ils avaient fait un setup science-fiction et surtout on n'avait plus un tableau carré mais un tableau hexagonal et c'était hyper dur à jouer, mais vraiment hyper hyper dur puisque le tableau en fait à chaque fois qu'on allait dans un sens ou dans un autre, les gemmes tombaient pas forcément dans le bon sens, enfin
c'était
hyper compliqué.
C'était,
ouais, c'est très, très perturbant. Et celui-ci n'a pas beaucoup fonctionné. Puzzle Quest 2, ils sont revenus à la formule classique et il a nettement mieux marché déjà.
Donc voilà, j'ai voulu en parler parce que c'est gratuit et voilà, tester.
C'est aussi disponible sur Android et iOS, bien évidemment. Gratuitement aussi. Ouais, un petit truc, j'étais passé totalement à côté. Je ne sais pas si c'est une nouveauté ou si c'est déjà sorti depuis longtemps, mais en tout cas, j'étais passé totalement à côté. Parlons maintenant de comics et on va commencer avec la citation de la semaine, une citation de Jonathan Hickman qui dit qu'il n'est incapable de faire des jumping points, tout simplement.
Alors, c'est
en
très
tout
drôle.
Cas, c'était en parlant de son Avengers 24.now qui va sortir bientôt, hein, je crois, ce mois-ci.
Ouais, oui, ça sort pour le jour de Noël, je crois. Il y aura deux sorties chez Marvel, je crois qu'il y aura ça et puis il y aura le Spider-Man 700.4. Et donc voilà, ce sera la grosse sortie de fin d'année.
Et du coup, il explique que pour lui, en tout cas, ce n'est pas vraiment un jumping point.
Ouais, il dit que c'est super compliqué, qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut connaître pour vraiment bien apprécier l'histoire. Voilà, il dit que c'est un, Très mauvais jumping on point. Alors c'était amusant parce que du coup tu as retrouvé la source de cette quote, et en fait il y a Tom Revort aussi qui a enchéri, c'était sur le comicsbeat.com pour expliquer non, mais en fait ce qu'il dit c'est pas vraiment vrai, ça peut être un très bon jumping point quand même, c'est quand même beaucoup mieux que de commencer avec le 23. Allez-y, le 24, c'est que ça sera quand même très simple à comprendre.
Le plus intéressant dans cette citation de Jonathan Hickman, c'est quand même qu'il explique qu'avec la façon dont on peut consommer le comics aujourd'hui, notamment avec Comixology, avec les trades, etc., il n'est pas vraiment d'accord avec le fait que chaque comic doit être un comic, enfin, chaque comic doit pouvoir se lire comme le premier comic de quelqu'un. Et que donc, il faut que ce soit facile d'accès pour n'importe qui.
Oui,
Et
et
je
puis
lui donne entièrement raison.
déjà ça, et puis moi je trouve qu'il peut y avoir du comics pour tous les goûts, c'est-à-dire il peut y avoir des gens qui ont envie d'avoir un comics qui se suit vraiment de façon feuilletonnante avec bah voilà, une histoire qui se développe avec du numéro 1 jusqu'au numéro 25 avec dans chaque épisode des nouveautés et des choses comme ça. Et d'autres où par exemple voilà, on commence à un comics et hop, on a une histoire complète ou on a un petit arc en deux. Enfin, faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Et voilà, c'est vrai qu'Hickman a tendance quand même à avoir une écriture en plaçant des indices un peu partout dans tous ses scénarios, en présentant les personnages en plein de numéros différents pour après au final qu'on comprenne l'histoire. Voilà, c'est vrai que lui, il n'est pas le mieux peut-être à même de faire des point one tous les 5 numéros, quoi.
Oui, mais puis bon, en même temps, si t'as vraiment envie de le lire, tu le lis. Si t'as
Et
pas compris et
voilà,
que vraiment t'as pas
exactement.
compris, bah t'y retournes pas. Et puis bah si ça t'a intéressé, bah à toi d'aller chercher un petit peu avant ce qui s'est fait, d'aller fouiller un peu sur le net ou d'acheter la suite et d'essayer de comprendre par toi-même, quoi. Enfin, je veux dire,
Exactement.
c'est pas compliqué, quoi. Faut juste être un tout petit peu, j'ai même pas envie de dire intelligent. Juste, faut pas être
Ouais,
bête,
faut fouiller,
c'est
faut
tout.
fouiller.
Pas être bête. Apparemment, voilà. Peut-être que c'est le prérequis pour pouvoir lire des comics, ne pas être bête. Et apparemment, vu que beaucoup gueulent que les comics ne sont pas accessibles, c'est peut-être qu'il y a une grosse propension de lecteurs de comics qui sont un peu crétins, je sais pas.
Oh là là, le
Je vise personne,
bash.
mais en tout cas aux États-Unis, quoi, parce que c'est souvent là-bas que ça se plaint, que les comics ne sont pas accessibles. Je sais pas, enfin, chacun voit midi à sa porte. On va pas refaire la complainte de c'était mieux avant, mais enfin, on se démerdait quand même, hein. On y arrivait.
Oui.
Eh bien justement, on va partir avec ces fameux jumping points, hein, ça va être
Oui.
le
All
début de
new
nos
Marvel
brèves.
now.
C'est All New Marvel Now, où on relaunch à grand tour de bras, et on commence par le fameux Wolverine and the X-Men. On savait que la série s'arrêtait au numéro 42, le run de Jason Aaron sur cette série Wolverine and the X-Men. On en a parlé jeudi dernier, enfin donc l'émission de samedi,
Ouais, vite fait,
le
ouais.
Comics Weekly. On savait maintenant que la série allait redémarrer au numéro 1. Elle est écrite par Jason Latour.
Tout à fait. Et c'était le fameux teaser dont on avait parlé lors du dernier Weekly News, qui s'appelait Futur.
Future.
Voilà, on n'avait pas du tout trouvé les bonnes choses. Donc c'était c'est le
Complètement,
re...
ouais,
ouais,
c'est vrai que
c'est le
le côté violet, etc. Enfin,
Ouais, là il y
tu avais
avait,
du mal
c'était
à
difficile, hein.
imaginer futur violet. Enfin, tu voyais pas du tout le lien avec Wolverine et les X-Men,
Ouais,
honnêtement.
exactement. Donc ce sera Jason Latour au scénario. Au niveau des dessins, ce sera Mahmoud Asrar, donc qui maintenant a de plus en plus de titres chez Marvel. Là, il était dans le précédent annual de Incredible Hulk. Donc là, maintenant, il sera sur l'ongoing Wolverine and the X-Men. Donc moi, c'est un dessinateur que j'apprécie, qui est assez rapide en plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc voilà, ça va se centrer sur les jeunes de l'école de Wolverine. Donc,
Toujours avec Wolverine au casting,
ah bah oui,
ainsi que Storm
tout à fait.
dans les profs.
Et bah Jason Latour, c'est un pote à Jason Aaron, donc ça fait un moment qu'il savait qu'il allait reprendre le titre, donc il a eu le temps de préparer un petit peu son arrivée sur le titre. Bon, voilà. Après, en faire un relaunch, ça c'est toujours le même débat, hein. C'est un petit peu débile, on va dire. Mais bon.
Oui, complètement. Pour moi, c'est complètement débile, mais bon.
Après, je suis content que le titre continue, du coup, parce que c'est vrai qu'il y a avec la fin d'Avengers Academy, c'était quand même un titre aussi un peu frais qui traitait de tous les jeunes, voilà, mutants de l'univers Marvel, et c'était un titre frais et amusant, donc. J'espère que ça va continuer un peu sur la même veine.
J'ai beaucoup aimé la façon dont il décrit la manière dont il a approché la série. Il dit qu'il a essayé de l'écrire comme si Jason Aaron était mort.
Voilà.
Et que donc, bah, il fallait continuer malgré tout, en fait.
Voilà, c'est ça, c'est la The Legacy, voilà.
C'est une drôle de façon de parler de ses potes, je
trouve.
Ouais.
On va dire que t'es mort et c'est moi qui reprends ton titre et voilà, c'est bon.
Autre teaser qui est tombé cette semaine et du coup qu'on n'a pas eu le temps de commenter hein, dans un Weekly News, c'était le teaser
Infamous.
Infamous, voilà, je retrouvais pas
comme
le nom.
Comme le jeu vidéo.
Et on a bah, maintenant, on sait déjà ce qu'est ce teaser Infamous. Alors vas-y, je t'en prie, Bruno.
Donc c'est le retour de Magneto pour un titre ongoing. Donc avec Cullen Bunn au scénario et Gabriel Hernandez Walta au dessin. Donc un Magneto numéro 1 qui commencera, je crois, c'est au mois de février ou mars. Voilà. Donc ce personnage
Allez,
qui est très Infamous.
Effectivement. 12 numéros max.
Voilà. Donc ah oui, d'accord. Ça j'avais
pas.
Ah
non, ça c'est mon avis.
Ah,
12
c'est ton avis.
Max.
D'accord, ok. Voilà, on n'en sait pas grand chose sur le titre. Il y a Alonso dans une interview a expliqué que ça sera peut-être proche de ce qu'on a pu voir dans X-Men First Class. Toutes les scènes où on voyait le jeune Magneto s'en prendre à tous ces nazis qu'il avait persécutés dans son enfance. Ça c'est d'un côté ce que dit Alonso, de l'autre côté dans l'interview de Cullen Bunn, il parle un petit peu plus du personnage, de sa psychologie, qu'on va l'aimer, puis qu'après on va le détester, puis qu'on va l'aimer, puis qu'on va le détester. Voilà, il y aura beaucoup de flashbacks a priori dedans.
Ça m'a l'air monstrueusement chiant, honnêtement. Moi ça me donne pas du tout envie d'aller voir ce titre. D'autant plus dessiné par Gabriel Hernandez Huerta, je suis pas grand fan de ce monsieur. C'est sympathique, mais ça casse pas des briques, je trouve. Je sais pas, ça me donne un espèce de côté de titre pseudo-indé, mais pas forcément l'indé que j'aime.
Ouais, je sais pas trop quoi en penser non plus. Je trouve que c'est un personnage qui mérite d'avoir son ongoing. Enfin, Magneto, c'est quand même le méchant ultime des X-Men côté mutant. Voilà, après.
Bon, plus maintenant, ça fait des années que c'est plus le cas.
Ouais, mais dans l'imaginaire collectif. Mais c'est vrai que oui, depuis il a changé. Maintenant, il est dans l'équipe de Cyclops. Il est plutôt gentil. Déjà, il a perdu ses cheveux. On le reconnaît plus. Mais bon, j'irai quand même voir le numéro 1 avec curiosité.
Bah surtout, ce qu'on nous annonce, c'est qu'on aura deux organisations qui feront vraiment partie intégrante du casting et que l'on verra très souvent. C'est bien sûr le Shield.
Ouais.
Et qui seront, suivant les moments, avec ou contre Magneto, pour les deux organisations, bien évidemment, donc le Shield, hein, comme je le disais, mais aussi une nouvelle version des Acolytes. Encore.
D'accord. Ouais, et c'est pas ultra original, quoi.
Mais voilà, c'est pour ça que je dis que ça m'emballe pas du tout, quoi. Ça m'emballe pas du tout, je trouve ça pas du tout intéressant. Cullen Bunn, j'ai envie de lui laisser sa chance, parce que je le trouve plutôt pas mauvais, hein. On a pu le voir sur Venom, sur Fearless Defenders, moi je trouvais ça plutôt sympa. Maintenant, sur Magneto, j'ai des doutes, j'ai de gros gros doutes.
Bon ben, on va demander à nos lecteurs ce qu'ils en pensent, combien de numéros aura droit à cette série.
Ben,
peut-être
moi,
comme Fearless, peut-être 12, hein, effectivement.
Moi je souhaite qu'elle dure le plus longtemps possible, bien sûr, comme toute série, parce qu'il y en a ras-le-bol de ces séries qui démarrent pour s'arrêter aussitôt. Mais franchement, c'est pas avec un pitch comme ça que tu as envie d'attirer les lecteurs et surtout les nouveaux lecteurs.
Ouais, il manque un truc, pour l'instant dans leur promotion, après c'est vraiment très en avant de la sortie du titre, qui vraiment nous accroche.
Ouais. Continuons avec Inhumanity. On a lu le one-shot jeudi, puisque c'est le jeudi où on enregistre l'émission, mais vous l'avez le samedi. On vous a dit notre avis.
Peu
emballé dans l'ensemble.
Mitigé, ouais.
Eh bien, la suite devait être Inhumanity Medusa, un autre one-shot, qui finalement a été renommé à la dernière minute.
Ouais, c'est ça, parce que les one-shots, ça marche. Enfin, c'est un petit peu compliqué pour les lecteurs, donc du coup, ils vont appeler Inhumanity Medusa Inhumanity numéro 2. Voilà. C'est un petit changement, on va dire, au niveau de la sémantique, mais ça veut peut-être dire aussi beaucoup, c'est qu'il y avait eu beaucoup moins de commandes du titre Inhumanity Medusa chez Diamond que du titre Inhumanity numéro 1.
Alors que le Inhumanity numéro 1 est sold out, hein, déjà.
Voilà, il va y avoir déjà un second printing qui sortira fin décembre. Donc
Fin janvier.
Fin janvier, ouais, le deuxième printing. Mais donc voilà, donc il change le nom. On sait qu'il y a un autre titre aussi, Inhumanity, qui doit sortir après, c'est Inhumanity Superior Spider-Man. Est-ce qu'il va lui aussi changer de numéro? Ça, on sait pas trop. Mais,
truc qui me donne encore moins envie de le lire, tu vois.
Ouais, mais après, c'est peut-être aussi en conséquence du retard du titre Inhumans. Peut-être qu'ils veulent faire une sorte de mini ongoing Inhumanity pour arriver jusqu'au mois d'avril. Je sais pas.
Ouais, une mini-série, quoi.
Une sorte de mini-série, ouais.
Non, mais je veux dire, ce qui me donne envie, c'est Inhumanity, Superior Spider-Man. Autant, bon, Medusa, oui, parce que bon, c'est une inhumaine. Donc, à la rigueur, ça me paraît logique. Superior Spider-Man, beaucoup moins. Je dis pas que c'est nul d'avance, hein, mais ça me paraît moins.
Ça a l'air moins intéressant par rapport aux Inhumains. Après, on a appris que ce serait Stéphanie Hans qui dessinera le numéro, donc peut-être d'un
Et
point de vue
non pas
graphique.
Richard Elson, ouais.
Ouais, d'un point de vue graphique, ça pourrait être sympa.
Et apparemment, il pourrait peut-être même changer de nom en s'appelant Inhumanity Spider-Man. Et non pas Inhumanity Superior Spider-Man.
Ouais.
À voir. J'ai l'impression que c'est un peu le bordel. Là, chez Marvel, avec Inhumanity, ça a mal parti, en tout cas.
Ah bah, Inhumans, ouais, ça leur a fait un gros coup hein, d'avoir un retard comme ça. Bah, justement, dans une interview, Alonso disait que « Ne vous inquiétez pas, c'est un titre très très important, mais par contre, il n'était pas important de le placer en mois de janvier. Si ça sort en avril, c'est pas très grave. » Mais tu parles. Ça, c'est vraiment le discours du gars qui est chez Marvel et qui est en train de pleurer parce qu'il a pas son numéro Inhumans qui sort en janvier.
Bah oui, il doit essayer de faire bonne figure. T'imagines si le mec disait ouais, ça y est, notre communication est foutue, on arrête tout.
Ah ça y est,
on
ferme Marvel
pour la peine.
On se casse.
On va passer très vite sur Iron Man.
Oui.
Iron
tout à
Man
fait.
Qui avec son numéro 23.now qui sortira en mars 2014 commence un nouvel arc. Qui s'appellera Ring of the Mandarin.
Ouais.
Et qui va aussi, on va dire, aller chatouiller l'univers de Thor. Et pourquoi j'ai décidé d'en parler, c'est surtout parce qu'on part dans une toute nouvelle direction. On est toujours avec Kieron Gillen sur un nouveau run de la série, mais cette fois-ci, on a décidé de ne pas le relauncher. Et enfin, une série qui n'est pas relaunchée, même si elle change totalement de direction. Ça fait tellement plaisir à voir.
Ouais, c'est vrai. Et puis là, Rings of the Mandarin, Mandarin, c'est quelque chose qu'on nous a teasé depuis quelques numéros avec tous ces anneaux façon Green Lantern qui commencent à atterrir chez certaines personnes. Voilà, le côté crossover avec Thor, ce sera via l'apparition de Maedekis dans l'histoire de Iron Man. Donc c'est bien de faire croiser comme ça les franchises et
surtout deux franchises qui marchent au cinoche.
Ouais, c'est ça en plus. Voilà, Maedekis c'est encore assez frais pour les gens qui sont allés voir ça au cinéma, qui sont allés voir Thor The Dark World. Donc pourquoi pas. Après moi cette histoire avec les anneaux là, ça m'intrigue quand même. C'est un peu what the fuck, mais pourquoi pas.
En tout cas voilà, une série qui arrive à renouveler totalement son point de départ.
C'est un numéro 23.
Oh là là. Sans partir au numéro 0. Bon alors par contre sur la cover on a un gros Ring of the Mandarin numéro 1 sur 6 hein,
ah, ça,
comme si c'était une mini
c'est
et on
partout.
A le tout petit 23.now tout petit en bas. On a plus l'impression d'acheter un numéro 1
qu'un
numéro 23.
Ils ont
non, 1 sur 5 pardon, j'ai dit 1 sur 6 et 1 sur 5. Mais bon, au moins ça reste la numérotation normale. Donc je suis très content que Marvel ne décide pas de relauncher à tour de bras. Il reste encore quelques séries qui ne repartiront pas au numéro 1, telles Daredevil ou Wolverine and the X-Men, et qui ne sont pas forcément justifiées, bien évidemment.
Ouais, alors, d'après Alonso, pareil, il disait que c'était parce que ça faisait partie des titres qui n'avaient pas eu le label Marvel Now lors du Marvel Now. C'est pour ça qu'ils les ont relaunchés. Après, d'un point de vue logique, c'est vrai que c'était vraiment pas justifié de le faire.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis un peu perplexe. Terminons avec Marvel et sa nouvelle com.
Ouais,
Marvel qui en fait partout d'ailleurs.
On critique les relaunchs, mais ils ont quand même quelques très bonnes idées, tout particulièrement avec la partie digitale en fait. Quand on va acheter nos comics du All New Marvel Now, on va avoir des codes digitaux hein, comme on a actuellement pour les titres qui sont à 4$. Mais en bonus, on va avoir des petits cadeaux et c'est pas rien ces cadeaux puisque on aura presque des TP entiers qu'on pourra télécharger. C'est-à-dire les premiers arcs Marvel Now de certains titres. Je crois qu'on aura par exemple pour Iron Man, on aura les 5 premiers numéros qui seront offerts. Pour Avengers, ce sera pareil. Donc mine de rien, c'est des petits bonus qui valent le coup et du coup, on en aura pour notre argent pour ces premiers numéros Marvel Now quoi.
Alors bon, bien sûr, avec tous les numéros 1 All New Marvel Now, on aura la copie digitale gratuite au même prix que le comic de base. On n'aura pas besoin de rajouter un supplément comme c'est le cas actuellement, en tout cas pour certains. Mais là, avec certains autres, comme tu l'as dit, avec certains autres comics, on aura carrément un trade gratos.
Ouais.
Ou en tout cas l'équivalent d'un trade gratos.
Oui, mais en digital, voilà.
En digital, oui, mais...
Mais c'est quand même cool, effectivement.
J'ai envie de dire, faut vivre au 21e siècle aussi, quoi. Le digital, voilà, c'est ça. Vous voulez quelque chose de gratuit, bah le digital, parce que ça ne vaut rien. Parce que vous ne pouvez pas le prêter, parce que vous pouvez pas le tenir, parce qu'il ne vous appartient pas, en final, puisque il faut lire les conditions de vente. Mais si le serveur ferme, vous avez juste le droit de fermer votre gueule.
C'est ça.
Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez pas dire à Marvel, oui, mais je les ai payés. Non, tant pis. Le serveur ferme, c'est tant pis pour vous. Donc si un jour Marvel se casse la gueule, vous ne pourrez plus lire vos comics, c'est du digital. C'est normal que ce soit moins cher, que ce soit offert, bon, pas, peut-être pas à chaque fois, mais ça devrait être moins cher que ça, quand on lit les conditions de vente, ouais. Honnêtement.
À noter également que dans les petites choses qu'ils font récemment, la Marvel, ils offrent le previews aussi maintenant en version digitale. Quand tu télécharges ton code pour récupérer ton numéro, par exemple d'Avengers ou d'autres choses, tu as également accès aux previews qui normalement est payant, c'est pas très cher, c'est 1,50$, mais qui te montre.
Ah, 1,50$, ça a augmenté, je crois que c'était 1,25$.
Ouais, 1,25$ ou 1,50$.
Ah non, mais
je
non,
sais
ça a peut-être, ça a peut-être augmenté.
Je crois que t'as raison, c'est 1,25$ et le previews est à 4,50$ avec Marvel. Quand t'achètes les deux, c'est 4,50$,
Voilà. De toute façon, le previews de Marvel est offert quand tu achètes le previews
exactement,
classique.
C'est ça. Et, mais voilà, mais donc ça te donne un peu une idée des titres qui vont sortir. Et je trouve que c'est une chose plutôt cool de la part de Marvel de faire ça.
C'est une bonne idée, ouais.
Voilà, ça leur coûte rien à faire. Et...
Ça leur coûte rien et ça peut aussi donner envie aux gens qui sont encore au papier. Et c'est très bien le papier. Attends, je critique pas du tout le papier en disant le papier, faut arrêter, c'est pas bien. Le papier reste très bien, mais on a aussi le digital et ça peut peut-être donner envie aux gens d'essayer le digital, même si c'est que pour lire un previews.
Oui, et puis pour du preview, je trouve ça s'y prête parce que ça reste du matériel promotionnel. Enfin, je veux dire, je vais pas collectionner les previews. Enfin, ça prend une place folle. Au final, ça reste des catalogues.
Voilà. Reste que ça pourrait être un tout petit peu mieux agencé avec quelques liens hypertextes, la possibilité.
Ah oui, oh bah ça, ils vont pas se faire chier.
Un peu comme
ça,
tu sais, quand tu vas sur les catalogues de supermarché. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'aller sur un site de supermarché genre Carrefour, Super U, Leclerc. Tu peux avoir tous les catalogues en ligne disponibles et sur chaque article tu cliques, ça grossit. Enfin, c'est vachement bien foutu, ce qui fait que le truc reste plaisant à lire.
Ouais, non, là ils vont pas se faire chier comme ça, mais bon.
Là, mais quand ils te mettent 3 ou 4 séries, enfin 3 ou 4 prochains numéros sur la même page, ça pourrait être sympa de faire grossir les cases rapidement. Enfin bon.
Après, j'ai pas testé, hein. Il y a peut-être aussi la lecture, la lecture façon digitale où on va de case en case.
Moi non plus, j'ai pas testé, mais c'est vrai que je me dis, bon, c'est un catalogue, ça serait sympa de pouvoir mettre en avant facilement les produits.
En tout cas, je trouve que Marvel fait de jolies choses d'un point de vue digital pour les bonus avec les codes. Mm-hmm. Quand on compare avec DC qui, pour des prix équivalents, n'offre pas ce genre de choses, c'est vraiment un bon point pour Marvel, je trouve.
Et puis, au-delà de ce qu'on vient d'annoncer, qui sont déjà de très bons cadeaux, Marvel a aussi mis énormément l'accent sur la com pour ce All New Marvel Now, avec tout un tas de sites partenaires, entre autres USA Today, CNN, The Associated Press, The New York Times, LA Times, Huffington Post, The Nerdist,
et
le Colbert Report sur Comedy Central, mais aussi des spots télé, radio, des campagnes streaming. Vraiment, ils ont foutu le gros, gros, gros paquet pour lancer ça. Ils espèrent toucher environ 100 millions de consommateurs. Alors, toucher 100 millions de consommateurs ne va pas forcément dire 100 millions de personnes qui vont lire des comics. Mais c'est 100 millions de personnes potentiellement atteintes par la pub et donc qui peuvent peut-être prendre le train en marche.
Ouais,
donc là, vraiment, un gros, gros coup. J'espère que ça ne leur videra pas les caisses parce qu'ils se seront plantés. C'est tout.
Ouais, on verra.
Sinon, la série Magneto ne verra jamais le jour. Honnêtement, je prédis à Magneto le même sort que Morbius The Living Vampire. Mais bon.
8 numéros, quoi. 8 ou 9.
Quoi. Non, mais tu sais, lancer et arrêter dans l'indifférence générale, quoi. C'est
ouais,
plus
ouais,
ça.
Tout à fait, ouais.
Allez, passons à de l'indé maintenant, puisque DC, il n'y avait rien.
En tout cas, rien
d'intéressant.
Que dalle.
Rien d'intéressant. On sent que la fin de l'année approche, que ça se relâche. À partir de Thanksgiving, en général, de toute façon, on est très très calme jusqu'à la fin de l'année. Donc, on va passer directement à l'indé. La nouvelle série de Mark Millar a été confirmée.
Ouais, tout à fait. Et il fera équipe avec Goran Parloff pour l'occasion dans un titre qui s'appellera Starlight. Donc voilà, ce sera chez Image, ce sera dans son a priori, ce sera dans le même continuité que MPH, qui doit sortir, qui est en équipe avec Duncan Fegredo.
Qui sort en D, ouais.
Voilà, et ce sera un titre assez pulp dans l'esprit, avec un design très proche d'un Flash Gordon. Enfin, en tout cas,
Bah oui, complètement. Je veux
la
dire, quand tu
couverture
vois
de Goran
l'ennemi,
Parloff, c'est carrément ça,
quand
quoi.
tu vois l'ennemi, la cover serait peut-être plus de Pi Craig Russell,
Ah, peut-être, peut-être, ouais. Mais en tout cas, l'ennemi, comme tu dis, c'est exactement un ennemi typique de Flash Gordon, quoi.
Ah oui, complètement, ouais. C'est abusé, quoi. Bon, ça fait partie de ce nouvel univers de Mark Millar qui annonce lancer l'univers Marvel du
Le
21e siècle.
nouveau Marvel, voilà, c'est ça.
Ouais.
Et bah pourquoi pas,
Dit
en tout
le mec qui n'aime pas le digital, hein. Ouh, regardez, le 21e siècle, mais pas digital, surtout pas.
cas. Ouais, donc encore un nouveau titre de Mark Millar qui. Ah voilà, bah pourquoi pas, il touche à tout, hein, ce mec, hein, il est hyper actif. Voir Goran Parloff à nouveau, c'est plutôt cool.
Oui,
Enfin,
ça c'est cool aussi, franchement.
c'est un dessinateur qui est plutôt efficace. Donc voilà, sur de la science-fiction. Moi, je suis intéressé. Après, j'espère que ça fera pas comme Jupiter's Legacy, quand on va attendre 3 mois entre chaque numéro, quoi.
De quelle série tu parles déjà?
Jupiter's Legacy, tu sais, c'est un truc qui sort, qui était
J'ai
vachement attendu. Mais...
lu ça, moi. Alors que j'en avais fait mes coups de cœur de la semaine quand ça sortait. Ouais, non, non, c'est espérons, espérons. Maintenant, bon, Mark Millar, quoi.
Donc Mark Millar qui fait de plus en plus l'amour avec Image, hein, qui a laissé tomber Icons. De toute façon,
Mais non,
maintenant.
enfin, quand je dis Mark Millar, c'est surtout que ça passe ou ça casse, en fait. C'est surtout ça. Ça peut être très bon comme ça peut être absolument atroce. Et il y a de fortes chances que ce soit déjà optionné au cinéma.
Oh bah ça, oui, tout à fait.
Puisqu'en général, il lance son comic une fois que ça a déjà été acheté pour le cinéma. Hein. On connaît la technique maintenant. Parlons de Dynamite très rapidement. Dynamite, on l'avait annoncé déjà lors de notre rapport de la dernière grosse convention
New York.
aux États-Unis, à New York, qui avait racheté les droits des anciennes publications Gold Key, publication Gold Key qui avait été publiée fut un temps chez Valiant aussi. Et on avait quelques rumeurs sur certains scénaristes. On a les équipes complètes, en tout cas maintenant, de plusieurs titres. Et on apprend que Mark Waid va reprendre The Occult Files of Dr. Spector.
Tout à fait. Donc un titre très pulp aussi, hein, dans l'ambiance, avec un savant, un docteur qui s'attaque à tout ce qui est occulte, donc les momies, les zombies, les trucs comme ça. Donc avec la touche Mark Waid, ça pourrait être sympa. Même si
Mark
bon,
Waid qui définitivement hein, ne sait pas prendre de vacances.
ouais, c'est clair. Voilà, après c'est pas non plus un concept hyper original, hein, tout comme le titre dont on va parler après.
Bah, c'est pas un concept original, mais c'est une série des années 70.
Oui, donc il y a une histoire un petit peu pour ces personnages-là, mais je ressens un peu le trop-plein d'histoires façon pulp qui ont ce genre de scénario. Enfin, on
Bah,
verra.
moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ben voilà, Mark Waid chez Dynamite sur un titre Gold Key, et on a une autre série Gold Key hein, qui va être annoncée, qui était Solar Man of the Atom, qui va être reprise, elle, par Frank Barbieri.
Ouais, Frank Barbieri qui travaille chez Image sur la série Five Ghosts. Voilà, pareil, un personnage qui est un petit peu comme le Docteur Manhattan, hein, il tient ses pouvoirs de la force atomique et il est obligé de se recharger. Enfin, ça c'était le vieux perso, hein, c'est pas ce que ce sera dans le remake. Mais voilà, un personnage un peu kitsch, hein, on va dire quand même. Son costume est un peu kitsch, mais
Bien
bon.
sûr.
On verra. Moi, de tous les titres Gold Key, après ça c'est mon côté fan de dinosaures, c'est quand même le retour de Turok qui m'intéresse le plus.
Barbieri qui avait pitché initialement quelque chose pour Turok aux éditeurs de Dynamite et qui lui ont dit mais ça te dirait pas de faire Solar? Et finalement il y a réfléchi, il s'est dit ok. Le
Ouais.
Turok je crois est repris par Greg Pak.
Greg Pak, donc c'est quand même aussi
Ouais.
solide, hein, pour Turok. Et en plus ils font une com de fou, hein, dans le dernier preview, ils ont annoncé je sais pas combien de couvertures alternatives pour le titre et des incentives de fou pour les comic shops, mais
Il faut que tu en achètes 2877 et tu as la super cover.
ouais, je crois que tu peux en acheter. Si t'en achètes 500 numéro 1, tu peux avoir ton nom de comic shop sur la couverture. Donc,
Ouais,
mais
bien
nous,
sûr. Ouais. Et puis il va falloir les écouler après,
on n'a
surtout.
pas suffisamment de clients pour ce genre
Non, mais ouais, il faut
d'achat.
pouvoir les écouler ensuite.
Ce serait
Ou
cool
alors.
d'avoir notre nom de Pulps Bordeaux sur le comics, mais
Ou
non,
alors tu les refourgues
500
après à d'autres
Turok,
comic
ce serait un
shops,
peu
quoi.
chaud, quoi.
C'est
C'est
ça,
chaud,
quoi.
quoi.
Je veux dire.
Mais ils y croient en tout cas, à ces titres.
Voilà, ça arrivera en mai. toutes ces séries. Espérons que ça marchera mieux que le dernier relaunch hein, prévu chez Dark Horse, qui avait duré 8 numéros chacun et qui avait eu reçu, enfin qui avait eu subi des retards monstrueux. Enfin, c'était puis c'était pas très bien en plus. On va terminer avec une nouvelle série qui va débarquer chez Boom en 2014.
Donc là, on a très peu d'infos. C'est une série qui s'appellera The Returning, qui va être annoncée très bientôt. Et donc voilà, chez Boom, ce serait avec Jason Starr au scénario, qu'on a pu voir sur la série Wolverine Max. Et au dessin, on aurait Andrea Muti, qui a travaillé sur du Star Wars. Voilà, très très peu d'infos pour l'instant. C'est vraiment juste une preview avec peut-être une couverture qui a été montrée de Fraser Irving. Bon, en tout cas, Boom qui continue de vraiment sortir des séries originales. Pour moi, c'est vraiment 2000. Enfin, on en reparlera lors des Golden Awards de Comic City, mais Boom, c'est vraiment la société cette année qui a vraiment vraiment apporté des choses intéressantes au milieu du comics.
Apparemment, l'histoire serait que ce sont des gens qui ont des expériences, ce qu'on appelle des NDE, hein, des Near Death Experience, je ne sais plus comment le terme français, enfin, en tout cas, les expériences de mort imminente, je crois.
Ils ont pris le couloir blanc. Et ils sont
voilà, ceux qui ont vu la lumière, mais qui sont revenus juste avant, ouais. Et qui, après leur retour, pèteraient totalement les plombs.
Donc, un concept un peu barré, mais... Voilà, on sait que les gens qui reviennent à la vie après leur mort, ça marche bien en ce moment, entre les zombies et les revivals et compagnie. Donc, bon.
À voir, en tout cas, à tester ces derniers temps, comme tu l'as dit, chez Boom, ça pète.
Oh, exactement.
T'as vu cette fin d'émission
est très très drôle.
Voilà, c'est tout pour les brefs comics, hein, comme on vous disait, des news assez light en ce moment. On va terminer, pas de Comics-Com non plus, pas de mail, pas de tweet ou de gros commentaires.
Ah, on a eu quand même pas mal de tweets, mais juste pour dire qu'on était les meilleurs. Avec notre nouveau site et tout.
Effectivement, nouveau site, pour ceux notamment qui téléchargent sur iTunes et qui ne se rendent jamais sur le site, bouh, c'est pas bien. La nouvelle version du site est en place avec un nouveau design, un nouveau logo, un site très épuré.
Oui.
Voilà, on avait envie de modifier ça un petit peu, ça tombe pour les 5 ans, ça fait un petit moment qu'on y réfléchit, on s'est dit bah, pourquoi pas lier les 5 ans avec cette nouvelle version du site. J'espère que cette nouvelle version vous plaira.
À noter qu'elle est 100% responsive, c'est-à-dire que si vous utilisez des téléphones portables pour naviguer sur Internet, le site s'adapte exactement justement à la taille de votre écran, et c'est vrai que la navigation est très très agréable. J'ai pu tester sur mon iPhone et c'est un vrai plaisir de se balader sur Comic City.
Voilà. Voilà, un nouveau site pour bientôt une nouvelle année que nous allons entamer. Je rappelle bien sûr hein, les Comic City Awards dont tu en parlais tout à l'heure,
oh oui.
Ce grand live que nous ferons le 20 décembre, vendredi 20 décembre, à partir de 21h hein, sur comme d'habitude, comme la dernière fois hein, sur Hangout. Donc diffusion en direct sur YouTube, on implémentera sûrement la vidéo aussi sur le site.
Il y aura des cadeaux.
Oui, il y aura des cadeaux de fou, il y aura plein de choses.
Plein de choses.
Tellement de choses que, pouf, il n'y aura pas de live en fait. Le truc, c'est tout le monde attend 21h et personne ne vient. Et puis, dernière petite chose avant que l'on se quitte, le nouveau concours de la semaine, on vous en avait parlé aussi, un concours chaque semaine pour fêter ses 5 ans à l'approche de Noël. Ah oui, on vous gâte, oui. On vous gâte, il va falloir aller chez le dentiste tellement on vous a gâté. Avec nos sucreries si belles. Je m'en barre
oh là là, oui,
n'importe
tout à fait,
où.
Tout à fait. Alors, c'est des comics qu'on fait gagner, c'est pas des bonbons, mais bon. C'est bien.
Ah, sait-on jamais. Sait-on jamais. Eh bien, cette semaine, c'est un concours en partenariat avec Glénat qui vous permet de gagner 5 tomes du numéro 1 de Out There, la série de Humberto Ramos, je crois.
Ouais.
J'ai un trou de mémoire puisque
Paul
j'ai
Jenkins,
pas le truc sous les yeux. Bravo, Paul Jenkins, ouais, peut-être, ouais, ça va être ça. Oh, bravo, Expert Comics, bravo.
C'est un concours sur Facebook, voilà. Allez-y, rendez-vous sur notre page Facebook pour participer à ce concours.
Et admirez ce joli nouveau logo, super,
ah, oui.
Magnifique. Tout ça, quoi.
Voilà.
C'est, je crois, la plus belle fin qu'on ait pu...
Tout ça, voilà.
Jusqu'à présent. En tout cas, merci de nous avoir suivis comme chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine dose de news qui sera sûrement très légère encore une fois. Mais ouais, ça fait du bien de faire des petites émissions aussi. En les préparant 10 minutes avant.
Ouais, ouais, c'était un petit peu à l'arrache, mais bon. Voilà, je pense qu'on s'en est bien tiré.
Oh, puis
le
si
mec
s'en
qui s'envoie des fleurs.
Même si on s'en est pas bien tiré, trop tard. C'est enregistré.
C'est fait.
C'est dans la boîte. On se retrouve donc la semaine prochaine. Vous retrouverez aussi le Comics Weekly, vos reviews comics de la semaine, samedi prochain, comme d'habitude. Et puis, la semaine d'après, vous aurez évidemment le live, mais aussi le Comic City, avec toutes les parutions VF du mois de décembre. Programme, encore une fois, très chargé.
Tout à fait.
Allez, à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, comme d'habitude, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter. Envoyez-nous des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Et puis retrouvez tous les anciens épisodes sur le site ou sur iTunes.
Ouais.
Bye bye.
À très bientôt. Ciao, ciao. Just for the time.